Vous écoutez
RMC.
Il est 7h sur RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trop de haine, c'est ce qui aurait motivé le geste prémédité de l'adolescent qui a poignardé sa professeure dans le Var. Il devrait être mis en examen ce matin pour tentative d'assassinat. Déformé en partie, cassé la couronne de génie miraculé du casse du Louvre, va pouvoir être restauré à l'identique. Et la nouvelle convention sur les transports sanitaires qui fragilise tout un secteur, celui des taxis, ils enregistrent une forte hausse de leur chiffre d'affaires, une forte baisse de leur chiffre d'affaires.
Reprise des cours progressifs ce matin pour les élèves du collège de la Guicharde à Sanary-sur-Mer.
Établissement sous le choc, 2 jours après l'agression au couteau d'une enseignante. Son pronostic vital est toujours engagé ce matin, touché à l'abdomen par l'un de ses élèves de 14 ans. Le procureur a requis son placement en détention provisoire. Il doit être déféré devant un juge d'instruction ce matin en vue de sa mise en examen. À l'issue de sa garde à vue, elle va prendre fin ce matin. Et devant les enquêteurs, Pierre Bazin, l'adolescent a tenté d'expliquer son geste.
Oui, face aux enquêteurs, l'adolescent de 14 ans reconnaît les coups de couteau et explique avoir prémédité son geste. Selon le procureur de Toulon, il reprochait à la victime d'avoir inscrit plusieurs incidents le concernant sur l'application Pronote, alors qu'il estimait cela injuste. Toujours selon le parquet, le suspect indique qu'il avait déjà envisagé de poignarder l'enseignante une semaine avant les faits, avant de se raviser. Mardi, rempli de haine selon ses explications, il a pris un couteau dans la cuisine familiale avant de se rendre au collège et c'est donc aux alentours de 14h30 qu'il porte 4 coups de couteau à l'enseignante. Après son acte, il dit avoir ressenti beaucoup de haine contre lui-même cette fois, le conduisant même à se porter des coups. La thèse du ressentiment est donc privilégiée. Aucun motif religieux ou politique n'a été relevé, selon le parquet de Toulon.
Autre cas de violence dans un établissement scolaire près de Lyon où une jeune collégienne a été violemment frappée à la sortie des cours vendredi dernier dans une vidéo publiée par un média local. À la demande des parents, voilà jeune adolescente recroquevillée au sol, frappée de plusieurs coups de pied à la tête par 2 autres jeunes filles. Une enquête a été ouverte. 3 mois après le casse du Louvre, une bonne nouvelle. La couronne de génie abandonnée par les voleurs endommagés a conservé sa quasi-intégrité. Elle va donc pouvoir retrouver son éclat, Rachel Sadodine.
Elle va donc pouvoir être restaurée à l'identique, sans recours à la reconstitution, autrement dit, sans ajout d'éléments nouveaux. Concrètement, la couronne de l'impératrice Eugénie a été écrasée, déformée lors du cambriolage. Les feuilles de palmier et les aigles, initialement placés en arc de cercle soutenant un globe coiffé d'une croix surplombant le bijou, se sont affaissés lors de l'extraction de la couronne de la vitrine. L'ensemble va pouvoir retrouver sa forme d'origine, mais une dizaine de petits diamants qui sertissaient les palmes et l'un des 8 aigles d'or manque toujours à l'appel. Un restaurateur sera donc bientôt désigné et compte tenu de la difficulté de l'ouvrage et de son caractère symbolique, il travaillera avec un comité d'experts présidé par la directrice du Louvre, Laurence Descartes.
Et les 8 joyaux dérobés lors de ce spectaculaire cambriolage restent, eux, toujours introuvables. Ils avaient alerté sur les risques pour leur métier au printemps dernier. Les taxis avaient bel et bien raison. Au dernier trimestre de l'année 2025, il y a eu 33% de défaillances d'entreprises pour le secteur selon une étude Altares, conséquence de la nouvelle convention de la Caisse d'assurance maladie en vigueur depuis novembre qui a entraîné, Marion Gauthier, une forte baisse du chiffre d'affaires pour ceux qui pratiquent le transport de malades.
Depuis 10 ans, emmener des patients du Maine-et-Loire en rendez-vous médical et depuis 3 mois, compter des courses qui rapportent moins, l'attente pendant qu'un patient est en consultation qui n'est plus totalement remboursée.
Il y a de la perte financière, ça c'est sûr. Je viens de me payer un salaire puisque j'ai vendu un véhicule.
Audrey a dû se séparer d'un de ses 3 salariés.
L'idée de couler la boîte, de faire une liquidation, commence à me trotter dans la tête. Liquidation veut dire mes 2 salariés au chômage, veut dire toutes les personnes que j'emmène. Ces gens qui sont pas entourés, ils vont se débrouiller tout seuls. Mais moi, il va falloir que je me sauve de là en fait. Une fille à finir d'élever, donc je voudrais bien finir droite.
La nouvelle convention avec l'assurance maladie accélère la crise de la profession pour le secrétaire de la Fédération nationale du taxi, Dominique Buisson.
De toute façon, avec 30 à 40% de baisse de rémunération, il y en a dans tous les départements, donc le marasme, il est généralisé. On nous a promis de faire une clause, soit dit, ce qu'on appelle de revoyure en mars, mais les entreprises qui seront défaillantes, elles sont dans le trou, on les a enterrées vivantes.
Avec toujours la concurrence des plateformes de VTC, le groupe d'études Altares confirme, taxi, c'est l'activité qui présente le rythme le plus élevé de faillite ces dernières années.
Un rendez-vous ce matin, 7h40 sur RMC. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, sera votre invité, Apolline, occasion de revenir avec lui sur l'une des mesures du budget obtenues au forceps par les socialistes. L'extension du repas à 1 € pour tous les étudiants dans les restos universitaires. Et ce, dès le mois de mai. Si l'initiative est saluée par les premiers concernés, syndicats étudiants et personnel du Crous s'inquiètent du coût de la mesure estimée à 90 millions d'euros. Reportage à Paris, Louise Salé.
Entre 3,30 euros et 1 €, la différence est importante dans le budget de ces étudiants.
Ça fait un gain de pouvoir d'achat vraiment intéressant.
Même si certains redoutent que cette mesure ne fasse exploser la fréquentation.
Le Crous est déjà assez saturé. Enfin, la queue, elle est là, elle est jusqu'à dans la rue, etc. Donc c'est soit on fait plus de Crous dans Paris, soit non.
La mesure est évaluée à 90 millions d'euros, mais seul un tiers de cette somme est aujourd'hui débloqué. Le ministère de l'Enseignement supérieur assure que le reste suivra, mais le salarié d'un restaurant universitaire redoute que le financement de l'État ne soit pas à la hauteur. Il témoigne sous couvert d'anonymat.
Le Crous est déjà très endetté. Hein. Un plateau repas, ça revient à 12 ou 13 euros à faire et c'est vendu 1 € ou 3,30 €. Vous voyez, ça s'en sort pas, quoi.
Sa direction n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Le sociologue Olivier Galland estime que cette mesure est mal ciblée.
Il y a environ 10% des étudiants qui sont dans une situation de grande précarité. Et c'est pas cette mesure générale qui va résoudre leurs problèmes.
Il la juge même contre-productive, car ceux qui en ont le plus besoin pourraient être privés de repas, faute de place.
À la veille de l'ouverture des Jeux de Milan, Cortina, l'Italie dit avoir déjoué une cyberattaque d'origine russe. Des sites du ministère des Affaires étrangères ont été ciblés. C'est le cas aussi, Julie Brault, de plusieurs sites liés à l'organisation de l'événement.
Oui, plusieurs hôtels censés accueillir de nombreux touristes lors de ces JO d'hiver ont été visés par des cyberattaques selon le gouvernement italien. Le système informatique d'un hôtel de luxe de la ville de Cortina a particulièrement été affecté. Son site web a été saturé, rendant la totalité de ses services en ligne indisponibles. Selon les médias locaux, cette cyberattaque a été revendiquée par le groupe pro-russe No Name 056, les mêmes hackers qui avaient revendiqué l'attaque massive en France contre le groupe La Poste pendant les fêtes de Noël. Dans un communiqué, le gouvernement italien a réaffirmé hier que des cyberpoliciers seront actifs toute la durée des JO pour protéger les infrastructures et le réseau informatique, notamment pour prévenir d'éventuelles menaces terroristes.
Des Jeux d'hiver qui ont débuté par un couac hier, panne d'électricité de quelques minutes sur les épreuves anticipées de curling. À suivre aujourd'hui les joueuses de l'équipe de France de hockey sur glace face à l'Italie dans une patinoire où il manque encore quelques coups de peinture. Vous ne manquerez rien en tout cas de ces Jeux Olympiques, tous les temps forts de la compétition à vivre en direct sur RMC, radio officielle des Jeux de Milan Cortina.
Et puis un autre rendez-vous ce soir, 21h10 en rugby.
Le coup d'envoi du tournoi des Six Nations, les Bleus remettent leur titre en jeu, ça commence au Stade de France face à l'Irlande et puis le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera juste avant Strasbourg-Monaco. Ce soir, le vainqueur de ce match rejoindra Toulouse, Nice, Lyon, Lorient et Lens qualifiés hier soir après Reims et Marseille la veille.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Vous saviez-vous combien ça coûte vraiment les soins en France? 20 € une prise de sang, 60 € une radio et une jambe ou un bras cassé, c'est 60 000 à 70 000 euros. Personne ne vous enverra vraiment la facture, mais il faut quand même savoir effectivement combien ça coûte en vrai. Bonjour Marie-Pierre de Bayancourt, vous êtes la directrice générale de l'Institut Montaigne et vous avez publié un rapport hier dans lequel vous réclamez de rendre visible le coût réel des services publics, une sorte de réveil des consciences en quelque sorte, savoir ce que l'État paye vraiment pour nous. C'est votre parti pris dans un instant et je vous attends au 32-16 pour venir réagir au 32-16 par téléphone ou sur le WhatsApp 06 12 424 424. À tout de suite, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Excellent réveil à tous. Sur RMC et RMC Story, on parle ce matin du coût, du vrai coût des choses. 20 € pour une prise de sang, 60 € pour une IRM, 1 300 € pour une journée d'hospitalisation. Personne ne connaît vraiment ces chiffres. Bah oui, parce qu'on ne reçoit jamais la facture. Voilà ce que coûte réellement la santé en France. Bonjour Marie-Pierre de Bayancourt. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Institut Montaigne. C'est un centre de réflexion libérale. Et votre idée, c'est de dire qu'au fond, rien n'est jamais vraiment gratuit. Et qu'il faut un choc des consciences. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça culpabilise?
Alors justement, dans ce travail qu'on a fait avec Jean-Dominique Senard, donc du Monde économique, et Jean-Louis Bourlange du Monde politique, on a voulu mélanger ces expertises privées et publiques pour justement ni être dans la morale, ni être dans la culpabilisation, mais être dans le réveil, le choc des consciences, parce qu'on est dans une impasse aujourd'hui en France et qu'on ne peut plus réformer la France. Alors pourquoi on peut pas la réformer? On a essayé de remonter à la source, un peu comme les saumons, et se dire quelle est la cause racine de cette impossibilité à réformer. Et on s'est dit, c'est la dilution des responsabilités à tous les niveaux, l'État, les entreprises, les collectivités, les citoyens.
En fait, on s'attend à ce que tout le monde paye pour nous, sans en avoir vraiment conscience. Hélas, on va s'arrêter un instant sur la santé, mais au fond, vous posez la même question sur les transports, sur l'éducation, sur les études. Alors concrètement, comment est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? C'est-à-dire que quand on sort de chez le médecin, on ne paye pas, mais comment on nous donne une facture pour nous dire ce que les soins qu'on a reçus ont vraiment coûté?
La responsabilité, c'est trois choses. C'est d'abord la transparence. Je sais de quoi cela retourne. Je sais ce que ça coûte, je sais qui doit faire, je sais les conséquences de mes actes. Donc effectivement, on n'est pas en train de dire on va changer le système de solidarité sociale, on est en train de dire on va donner
à
voir. Vous ne
demandez pas aux gens de payer.
Non.
Vous dites juste, au moins sachez ce que ça coûte.
Exactement. En France, on est le pays, par exemple, qui a le plus faible taux d'adhésion thérapeutique. C'est-à-dire on gaspille le plus de médicaments. On commence sa plaquette, on la jette. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien. Dans l'esprit des gens.
Voilà, parce qu'on a l'impression que ça ne coûte rien.
Exactement. Alors ça coûte. Donc pour répondre à votre question, par exemple, vous dites une journée d'hôpital, c'est pas 1 300 €. Une journée d'hôpital, c'est 10 000 €. 1 300 €, c'est ce que ne paye pas la sécurité sociale. Donc la solidarité nationale paye à peu près 8 000 € à 8 500 €. Le reste sont les mutuelles ou, pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir, les patients eux-mêmes. Mais ce qu'on demande, c'est que ce coût total soit visible sur chaque acte, sur chaque commande de médicaments, sur chaque hospitalisation, pour que les gens se rendent compte que leurs impôts, leurs contributions servent à la solidarité nationale.
Quand vous dites, par exemple, qu'une jambe ou un bras cassé, c'est entre 60 et 70 000 euros, vous avez fait le calcul de l'ensemble de ce que ça coûte. C'est-à-dire à la fois le coût de l'intervention elle-même, c'est-à-dire appeler, je sais pas, les pompiers, l'ambulance, le soin à proprement parler, la radio, l'opération, mais c'est aussi le coût de l'arrêt de travail pour la collectivité. C'est cet ensemble-là dont vous voulez faire prendre conscience.
Oui, alors ce chiffre n'est pas vraiment dans le rapport, c'est un amalgame de beaucoup de choses qui est repris, mais c'est une manière de dire rien n'est anodin et tout coûte. Quand vous êtes un taxi londonien, un épicier londonien, et que du jour au lendemain, vous voyez votre retraite, vos économies fondre ou le loyer exploser, vous êtes responsable et vous adaptez vos comportements. En France, cette invisibilité des coûts a rendu les gens, inconscient de vraiment ce que ça coûte au collectif. Et comme aujourd'hui, on est arrivé en butée, on est dans une impasse.
Parce que, effectivement, l'État a de plus en plus de mal à faire face à tous ces coûts, vous appelez à une forme de responsabilisation. Je voudrais qu'on puisse accueillir aussi Fatima, qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Fatima.
Bonjour.
Vous travaillez dans les assurances, justement. Vous vouliez dire qu'au fond, si on veut vraiment savoir, on peut.
Absolument, tout à fait. Il faut juste être un petit peu curieux et puis aller juste regarder sur Amélie et les relevés de compte qu'on reçoit plus maintenant par courrier. Mais à titre personnel, j'ai rarement été malade, mais depuis plus d'un an maintenant que je suis suivie pour un cancer. Et effectivement, par curiosité, comme je ne paye pas, mais je sais quand même que c'est la Sécu qui règle directement l'hôpital. Et puis par curiosité, effectivement, je suis allée vérifier sur mes relevés et on voit clairement ce que la Sécu verse.
Vous avez vu par exemple pour votre cas, Fatima?
Oui, pour mon cas par exemple, en ce moment je suis en chimiothérapie toutes les 3 semaines. Et toutes les 3 semaines, je vois que mon traitement coûte 4 900 € à la Sécu. Et d'accord. Ça va être pendant 14 semaines. Donc quelque part après, on relativise, effectivement, on paye beaucoup d'impôts, mais on sait pourquoi. Et c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus de transparence. Je suis complètement d'accord avec votre invité aujourd'hui.
Je trouve ça très intéressant parce qu'avec votre cas, Fatima, on voit que ça ne vous a pas culpabilisé du tout. Ça vous a réjoui aussi de vous dire que l'État était là pour vous.
Absolument, absolument.
Je l'entends
exactement,
dans vos...
parce que aujourd'hui, en étant un arrêt maladie et en me disant comment se soigner si c'est pas l'État qui paye ses 4 900 € toutes les 3 semaines pour moi. Ouais. Après je sais derrière que ce sont tous les impôts qu'on a payés depuis années qui permettent, mais c'est pas suffisant. Donc il faudrait peut-être responsabiliser un petit peu et puis responsabiliser un petit peu tous ceux qui râlent. Mais effectivement, c'est quand on se retrouve dans la situation qu'on a
ce réflexe ou cette envie d'aller chercher l'information. Merci Fatima et bon courage effectivement donc dans votre combat quotidien. On est avec vous Fatima. 7h19, une autre question avec vous Marie-Pierre de Bailliencourt. On a parlé de la santé, mais est-ce que cette attitude là, c'est-à-dire l'idée de transparence sur les prix pour responsabiliser, ça pourrait être appliqué à d'autres services publics que la santé, c'est-à-dire je pense au transport, je pense à l'éducation. Est-ce que vous souhaiteriez que cette démarche elle soit appliquée également à ces domaines-là?
On rentre là dans une campagne municipale et on sait qu'une des préconisations de campagne favorite des maires, c'est la gratuité du transport public. Or, ça n'existe pas, la gratuité du transport public. Si c'est pas l'usager qui paye, c'est quelqu'un d'autre. Ce sont les taxes des entreprises, ce sont les dotations gouvernementales, ce sont les impôts locaux. Et comble, quand on fait des sondages, on se rend compte que, un, la plupart des Français ne demandent pas la gratuité du transport, mais demandent la sécurité, la propreté, la régularité ou l'étendue des trajets, mais ne demandent pas la gratuité.
Oui, ils préfèrent payer, mais qu'au moins ce soit sécurisé, efficace.
Exactement. Et ensuite, on se rend compte que même pour des principes d'écologie, il n'y a pas de ce qu'on appelle le report modal. C'est pas parce que le transport est gratuit que vous allez abandonner votre voiture pour prendre ce transport. Donc là, on a plutôt envie de dire il faut payer. Et donc, notre recommandation, c'est de dire montrer le coût total sur le ticket de transport de ce que ça coûte au collectif. Évidemment, permettre aux personnes les plus fragiles ou les plus nécessiteuses d'être exonérées de ce paiement, parce que quand on cherche un emploi ou quand on a des revenus particulièrement faibles, oui, mais pas en faire une généralité.
Et dans un sens, ça m'inspire aussi une question pour mon invité à 7h40, ce sera le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, avec cette question, les repas à 1 euro pour tous les étudiants. En vrai, comme on vous écoute, ça ne coûtera pas 1 euro. Ce sera pour tout le monde. Donc, les plus modestes qui en ont vraiment besoin, mais aussi ceux qui pourraient éventuellement payer ces repas. Et donc, c'est une vraie question aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Marie-Pierre de Bailliencourt, donc directrice générale de l'Institut Montaigne. Vous continuez à réagir. Et un merci particulier à Fatima d'être intervenue au 32-16. Il est 7h21 et Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Notre historien maison qui va remonter le temps. C'est demain officiellement que les JO d'hiver vont débuter. Les épreuves seront évidemment à suivre sur RMC. Arthur, à quand remontent les premiers Jeux à la montagne?
Eh bien, c'était en 1924 et c'était en France, à Chamonix. Et vous verrez, les premiers JO d'hiver, c'était spécial. Hein. Il y avait même une course de chiens de traîneau.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demanche qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 20 secondes, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on va remonter le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Pauline.
Demain, c'est la cérémonie d'ouverture des 25e Jeux Olympiques d'hiver. Les épreuves vont durer jusqu'au 22 février. Ça se passe en Italie.
Oui, dans deux endroits différents. Hein, les épreuves auront lieu dans la ville de Milan et dans une station de ski des Alpes qui s'appelle Cortina d'Empenzo. Cette station a d'ailleurs déjà accueilli des JO d'hiver. C'était en 1956.
Ça date de quand, les JO d'hiver?
Alors, les premiers ont eu lieu en 1924. C'était en France, hein, à Chamonix. Les JO d'été modernes existaient, eux, depuis 1896, et comme les JO d'hiver, c'était complètement nouveau, et qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, eh bien, on n'a pas voulu appeler ça tout de suite Jeux Olympiques. Hein. On appelait ça la Semaine Internationale des Sports d'Hiver, et finalement, puisque tout s'est très bien passé, eh bien, on a donné le titre officiel de JO d'hiver juste après cette première édition de 1924.
Les épreuves, c'était déjà à peu près celles qu'on connaît aujourd'hui?
Alors au début, il y en avait beaucoup moins. Et surtout, certaines disciplines qui font aujourd'hui partie des JO d'hiver étaient en fait à l'origine des épreuves des JO d'été. Et vous allez être surpris par ces disciplines. Par exemple, le patinage artistique. Eh bien en fait, ça a commencé aux JO d'été de 1908 à Londres. Pareil pour le hockey, ça a commencé en 1901, mais aux JO d'été d'Anvers. On a ensuite rapatrié ces disciplines dans les JO d'hiver, en fait parce que c'était plus logique.
Hein. Oui, évidemment. À une époque, il y avait même des épreuves avec des animaux.
Et oui, incroyable mais vrai, c'était dans une catégorie qui s'appelait sport de démonstration. Et alors, dans cette catégorie, il y avait un sport complètement absurde qui s'appelait le ski joeyring. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous étiez sur des skis tirés par des animaux. Alors en général, c'était un cheval, un poney ou un chien. Alors,
c'est génial.
Et d'ailleurs, une année, en 1932, aux JO d'hiver, il y a même eu une épreuve de course de chiens de traîneau.
On avait quand même déjà eu des problèmes de neige.
Et oui, et à l'époque, il n'y avait pas de canon à neige artificiel comme aujourd'hui, donc ça compliquait tout. En 1964, au JO d'Innsbruck, en Autriche, on a frôlé la catastrophe. Il n'y avait pas assez de neige, alors comment faire? Eh bien, c'est carrément l'armée autrichienne qui est intervenue. Elle a été chercher 40 000 mètres cubes de neige tout en haut des montagnes pour les redescendre sur les pistes où avaient lieu les épreuves de ski. Imaginez un peu la performance.
C'est l'ancêtre des canons à neige. Voilà. Donc, certains athlètes parviennent même à être médaillés aux JO d'hiver et aux JO d'été.
Et oui, c'est arrivé plusieurs fois et ça concerne vraiment des sports qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier athlète à avoir réalisé cette performance, c'est Edward Egan, un Américain. En 1920, aux JO d'été d'Anvers, il est médaillé d'or en boxe anglaise. Et en 1932, aux JO d'hiver de Lake Placid, il remporte encore une fois l'or, mais cette fois-ci en bobsleigh.
Ah bon?
Eh oui, rien à voir. Plus récemment, c'est arrivé, l'américaine Lauryn Williams a remporté l'argent aux 100 mètres des JO d'Athènes en 2004. Et 10 ans plus tard, en 2014, elle remporte à nouveau l'argent, mais cette fois-ci en bobsleigh aux JO de Sochi.
Bobsleigh, c'est quand même... c'est la niche de ceux qui veulent l'été et l'hiver.
Oui, c'est vrai.
Qui veulent s'occuper et l'été et l'hiver.
C'est vrai.
Merci Arthur. Et RMC, bien sûr, radio officielle de ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. Médaille française, moment décisif, vous ne raterez rien de ces JO en écoutant RMC. 7h25, Arnaud Demange.
RMC.
Demange
pirate,
face à face.
Salut Arnaud, dans Bonjour. Le face à face, Bonjour. Tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le plus haut magistrat de France, le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz.
Oui, Cour de cassation, son métier c'est de casser des jugements, c'est le Brice de Nice des affaires judiciaires. Tu prends un dossier...
Et tu casses.
Tu casses pas toujours, mais tu casses parfois. Je pense que Marine Le Pen aimerait bien qu'il casse par exemple un jour. Jordan Bardella, lui par contre, il lui a laissé un petit mot dans la loge des invités. J'ai lu, il a mis « Rémi Heitz, poule mouillée, t'es pas capable de condamner la vieille. » Avec Rémi Heitz, on parlera du procès de Marine Le Pen, de l'affaire Epstein. Alors tiens, au fait, on dit Epstein ou Epstein? Parce que là, c'est difficile. Tout le monde a sa prononciation différente. On dit Einstein, on dit pas Epstein.
Oui, mais il est allemand.
On dit pas Einstein and the Queen. On dit quoi alors? Ma femme m'a dit on dit gros connard.
On peut se mettre d'accord là-dessus.
Marine Le Pen qui a parlé d'Epstein au procès, elle a dit... Quand on voit ces hommes politiques faire la fête avec des prostituées mineures, qu'ils droguent en buvant de l'alcool, en les trafiquant, en invitant Jack Lang, est-ce que détourner de l'argent du Parlement européen, c'est si grave que ça, finalement? Parce que c'est mal engagé, là, pour la présidentielle. Il y a l'inéligibilité. La menace du bracelet électronique. Mais après, je vais vous dire... Je serais même pas surpris qu'elle y aille quand même. Qui va l'arrêter, hein? Les policiers? Ils votent tous pour elle. Si les juges envoient les flics pour l'empêcher de faire quand même, ils font « Police nationale, madame !» On peut faire un selfie? Allez, bon courage! On est au temps du Trumpisme. Trump, il s'en foutrait. Il ferait campagne avec un bracelet électronique en or massif. On le verrait bien. Il aurait un t-shirt « Fuck me, I'm guilty ». Il sortirait un album de rap avec Puff Daddy. Pouah! Je vous le dis, si je retrouve Marine en featuring sur un album de Kalash Criminel, je suis même pas surpris. Néanmoins, les juges sont pas contents. Ils ont dit au procès, vous êtes avocate, vous connaissez les lois. Tu vois, t'as un cabinet d'avocats. T'as un code pénal, bah tu vas dans ton cabinet d'avocat puis tu lis ton code pénal. C'est comme dans les bronzés.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
C'est la même chose. Voilà. Bon alors, Marine est avocate, mais faut reconnaître que les avocats français sont nuls en droit. Hein. Devant les juges, on a déjà eu Sarkozy, avocat, Balkany, avocat, Juppé, avocat, Dati, avocate. Hortefeux, avocat. Faut vraiment qu'on réforme cette filière. C'est la cata absolue. Faut en parler à Rémi Heitz à 8h30.
Merci Arnaud. Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment aussi en direct à 8h20. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dingen. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des dégâts énormes pour des butins complètement dérisoires. Les cambriolages de boulangeries en hausse, mais pas n'importe quelle boulangerie. Ce sont principalement celles équipées de monnayeurs automatiques qui sont visées. Elles sont complètement à sec. Les 75 universités françaises sont dans le rouge dès le début de l'année. C'est une première et on vous explique pourquoi dans ce journal. Et puis il a vu son destin basculer le soir du Nouvel An. Témoignage à suivre d'un des rescapés de l'incendie de Crans-Montana, le jeune joueur du FC Metz, Tairis Dos Santos.
Les boulangeries sont menacées.
Ce sont les derniers commerces où les espèces circulent encore en grande quantité. Et ça, les cambrioleurs l'ont bien compris. Mais ce qu'ils recherchent précisément, ce sont celles qui sont équipées de monnayeurs automatiques. Ces machines qui récupèrent vos pièces et vos billets pour vous rendre automatiquement la monnaie. Des boulangeries ultra ciblées et ce, partout en France. On l'a vu ce matin au 32-16, mais c'est surtout la région parisienne qui morfle. Avec déjà une trentaine de braquages ces deux derniers mois, Célestin Bougère.
Il est minuit passé le 4 janvier dernier dans cette boutique de Bonnières-sur-Seine quand le silence est brisé par un bruit sourd. Sur les images de vidéosurveillance, on voit la porte vitrée de la boutique être fracassée. Un homme se dirige tout de suite vers le monnayeur automatique. À l'aide d'un tournevis, il déboîte la caisse en quelques secondes. David Guiton n'a pu que constater les dégâts dans sa boulangerie.
Ça a pris 27-28 secondes.
Il y en a pour 220 euros de fonds de caisse volés, 6000 euros de caissons, 2500 euros de porte automatique. On a plus de matériel que d'argent. Psychologiquement, c'est pas facile.
À une quarantaine de kilomètres, Hamilton Dos Santos a également subi un braquage chez lui aussi. C'est le monnayeur qui a été visé. Résultat, 10 000 euros de préjudice pour lui.
De s'attaquer à des petits commerces comme nous, mais des artisans, on se lève tôt, on fait beaucoup d'heures, voilà, c'est vraiment triste.
Olivier Gérard est le président des boulangers des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise, les départements les plus touchés. Il a envoyé des recommandations aux artisans qui possèdent ces monnayeurs.
Le soir, il faut vider systématiquement ces caisses, les mettre dans un coffre à l'abri des regards.
Lui souhaite rendre possible l'installation de rideaux métalliques pour tous les boulangers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à cause de certaines règles d'urbanisme.
7h32, l'enseignante de Sanary-sur-Mer poignardée par son élève à cause de ses commentaires sur Pronote. C'est la raison invoquée par le collégien de 14 ans qui a reconnu les faits hier en garde à vue. L'adolescent confirme avoir prémédité son geste. Il avait même déjà failli passer à l'acte la semaine dernière. La violence dans les collèges et les difficultés financières dans les facs. Toutes les facs, c'est une première. Les 75 universités françaises commencent l'année dans le rouge. Et la raison, Bérangère Bocquillon, c'est qu'il y a beaucoup trop d'étudiants.
Ouais, les universités ont accueilli 200 000 étudiants de plus ces 10 dernières années. Mais il n'y a pas que ça, hein. Les salaires des enseignants, les factures d'énergie qui augmentent et l'État qui ne compense pas toujours. À l'université Montpellier 3, par exemple, la présidente nous explique qu'il y a 23 000 étudiants, alors qu'elle n'est calibrée que pour en accueillir 17 000. Il manque 60 enseignants titulaires. Chloé Delaporte est professeure des universités en études cinématographiques à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
Depuis début janvier, je fais cours dans des salles qui ne sont pas chauffées. Des étudiants en manteau, des enseignants, enseignantes qui s'achètent, des ordinateurs qui impriment leurs documents, qui financent leurs déplacements professionnels dans des colloques, dans des congrès. Donc en fait, on paye pour travailler.
Et puis des amphithéâtres bondés, des étudiants qui ne peuvent pas être bien accompagnés par leurs professeurs. Certaines universités ont donc choisi une solution radicale pour enrayer leurs déficits. C'est de supprimer des places. C'est ce qui se passe à l'université de Lille, de Toulouse et de Rouen. Rouen qui a supprimé 700 places en première année de licence dans des licences très demandées comme le droit ou la psychologie, ce qui risque de laisser des bacheliers sans solution sur Parcoursup.
On en parle avec mon invité à 7h40, juste après votre journal, Élise. Ce sera le ministre chargé de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste. N'hésitez pas à venir aussi l'interpeller, à nous appeler, à témoigner de ce qui se passe dans les universités. Je vous attends au 32-16.
Lui ne connaît pas la crise. Le géant de l'acier, ArcelorMittal, présente ce matin ses très bons résultats 2025. Son action n'a jamais été aussi haute depuis 15 ans. Le groupe s'attend même à une augmentation de la production cette année. Et pourtant, des suppressions d'emplois se profilent et se confirment, Clara Gabillet.
Oui, ArcelorMittal est porté par un troisième trimestre solide, rassuré aussi par un contrat signé avec EDF pour de l'électricité à prix compétitif pendant 18 ans et n'a pas à craindre la concurrence chinoise grâce à un plan européen sur l'acier. Et pourtant, depuis une semaine, 1600 emplois sont menacés en France par une possible nouvelle délocalisation en Inde. Pilule difficile à avaler pour les salariés. Jean-Marc Vécrin, représentant CFDT.
Il n'y a pas de gêne, quoi. Comment qu'on peut en même temps annoncer de bons résultats en tuant carrément la sidérurgie en France.
D'autant plus incompréhensible pour le syndicaliste, car ArcelorMittal a reçu par exemple en 2023 300 millions d'euros d'argent public, notamment pour décarboner sa production.
On se réjouit de ça et on est content pour la société, parce qu'on pense que derrière, ça va pérenniser l'activité et forcément l'emploi. Force est de constater que c'est pas du tout ce qui se passe. Les députés européens qui sont en charge de l'industrie doivent à un moment donné prendre leurs responsabilités et dire maintenant c'est stop, quoi. Avoir au moins comme contrepartie qu'il n'y ait pas de licenciement, c'est le minimum.
Les syndicats promettent de se mobiliser dans les prochaines semaines. L'entreprise, elle, défend un modèle économique durable.
7h36 sur RMC. Il fait partie des rescapés du terrible incendie de Crans Montana dans lequel 40 personnes sont mortes la nuit du Nouvel An. Thaïris Dos Santos, jeune footballeur au FC Metz, a donné sa première interview hier à Paris Match. Il raconte la nuit du drame et les séquelles qu'il garde encore aujourd'hui, Clément Brossard.
Les bouclettes du jeune homme ont laissé place à des cheveux très courts. Sa peau, elle, témoigne de l'incendie.
Je suis en vie, c'est le plus important. Le physique, ça passe après.
De larges brûlures marquent son visage, ses bras, son dos, ses mains sont gantées. Brûlé à 30%, Thaïris Dos Santos garde de vifs souvenirs de la dramatique soirée. Il raconte à Paris Match que c'est en remontant des toilettes qu'il voit que l'établissement prend feu.
J'entendais beaucoup de cris, il y a eu un attroupement. Et au moment où j'étais dehors, j'étais assis par terre. Je n'arrivais plus à bouger. Mes amis, je ne savais pas s'ils étaient encore vivants ou pas. Du coup, je criais leur prénom et pas de réponse.
À la sortie de la boîte de nuit, une infirmière étudiante lui vient en secours.
On peut dire qu'elle m'a sauvé la vie, oui. Elle me réconfortait. Je lui avais demandé de me prendre en photo pour mes parents et que si je ne devenais pas footballeur professionnel, je sauverais des vies comme elle.
Les jours qui suivent sont un périple. Thaïris passe d'un hôpital à un autre, Sion, Stuttgart, puis Metz. Après d'intensifs soins, l'heure est désormais à la réparation.
Je me concentre pas trop sur le foot. Le plus important, c'est que je me rétablisse bien, réutiliser mes mains, à bien remarcher. Après, on verra.
Dans un post sur X relayant la vidéo de Paris Match, son agent l'assure, Thaïris Dos Santos reviendra un jour sur les terrains de football.
Lui fait son grand retour avec les Bleus du 15 de France. Antoine Dupont, capitaine ce soir pour le match d'ouverture du tournoi Destination face à l'Irlande. Coup d'envoi à 21h10 à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 9, Global Concept. L'outsider, c'est le 13, Die Hard.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des amphis surchargés, des travaux dirigés avec parfois 50 étudiants face à des profs, eux-mêmes obligés parfois d'acheter les fournitures pour faire cours. Les universités sont en crise. Bonjour Philippe Baptiste.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur. Alors tout ne va pas si mal, évidemment, c'est ce que vous allez tenter de nous dire dans un instant. Et puis je vous interrogerai aussi sur ce fameux repas à 1 euro, la promesse de ce budget. 1 euro pour tous les étudiants, oui, mais où trouver le financement? Et vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être étudiant, ou alors vos enfants le sont, ou alors vous êtes même prof, tiens. Appelez-nous au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil et très belle journée à tous. Il est 7h41 à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story. Nombre d'étudiants qui explosent et budget insuffisant. Les universités disent être au bord de la faillite. Bonjour Philippe Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes le ministre chargé des universités puisque vous êtes chargé de l'enseignement supérieur. Voilà le tableau qu'ils nous font. Des amphis surchargés, des travaux dirigés avec parfois près de 50 étudiants, des salles sans chauffage. Je voudrais que vous écoutiez les mots du président de l'université de Rouen-Normandie, Franck Lederf. Il est interrogé par la chef du service société d'RMC, Bérangère Bocquillon. Écoutez ce qu'il dit de sa faculté.
Au mois de septembre, oui, j'ai réduit à peu près de 700 places, le nombre de places en première année. On va réduire considérablement le nombre de travaux dirigés. On n'ouvre pas aussi des formations à faible effectif. Je réduis aussi mes recrutements. Ma campagne d'emploi va être diminuée par 3 hein, cette année. Et malgré ça, j'ai un déficit de 11 millions d'euros.
Les universités qui commencent l'année avec un budget déjà en déficit.
Alors, je ne vais pas commenter spécifiquement la situation de l'université de Rouen. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le nombre de places aujourd'hui qui sont disponibles sur Parcoursup, pour parce que les jeunes, les bacheliers là, qui sont en train de passer, enfin, qui préparent leur baccalauréat, c'est quand même, je veux dire, enfin, le nombre de places est stable globalement en France. Alors, il peut y avoir des endroits où ça baisse, des endroits où ça monte, mais globalement, il y a une stabilité complète. Il y a 25 000 formations qui sont disponibles. Et je rappelle que l'an dernier, juste peut-être un tout petit peu pour rassurer, pour qu'il n'y ait pas un message qui soit excessivement anxiogène envers les bacheliers, il y a, enfin les futurs bacheliers, pardon, l'an dernier, à la fin de la campagne Parcoursup, il y avait une trentaine de jeunes pour lesquels on avait une difficulté, on n'arrivait pas à trouver une place.
Une trentaine de jeunes sur toute la France ?
Jeunes sur 1 million au début qui étaient sur la plateforme. Donc, je voudrais rassurer tout le monde. Tous ceux qui veulent suivre des études supérieures demain vont trouver des places. Maintenant, après, sur la situation budgétaire globale des universités, je voudrais dire d'abord que c'est une terre de contraste. Il y a des établissements qui vont très bien, il y a beaucoup de formations qui ont des très bonnes dynamiques. On forme quand même, on a des formations qui sont quand même d'excellence, enfin, des universités, des grandes écoles,
des BTS, des IUT qui fonctionnent très très bien. Les jeunes qui sortent, ils sont embauchés, ils trouvent de l'emploi. Certains nombres de filières sont hyper attractives dans le monde entier. Donc je voudrais un tout petit peu relativiser le discours. Maintenant, qu'à un tel endroit ou à tel autre, on ait des difficultés, oui, c'est vrai, je dirais absolument. Que des formations ferment, mais c'est bien normal. Je veux dire, enfin, des formations.
Ça vous choque pas ça? Mais non, ça vous paraît en fait la vie de la recherche.
Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Après, la question, c'est est-ce que, par exemple, au niveau master, on a besoin d'autant de différents types de masters partout dans le monde ou de parcours de master où on en a des centaines, il y en a qui contiennent 5, 6, 10 étudiants. Est-ce qu'on a besoin de tous les garder? Est-ce qu'il y en a certains qu'il ne faut pas regrouper? Non, pas les fermer. Hein,
mais parce que certains deviennent aussi obsolètes peut-être par rapport à la vie professionnelle.
Je pense que c'est des questions, mais c'est comme dans tous les secteurs. Je veux dire, c'est normal qu'on se pose ces questions-là. C'est normal qu'il y ait une dynamique. C'est la liberté académique des universités qui doivent vivre cette liberté avec les contraintes qui sont les contraintes du budget. Je voudrais juste rappeler quand même un chiffre. Hein. Je veux dire, globalement, mon ministère aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros. C'est la quatrième dépense de l'État. L'État investit pour les jeunes, investit pour la recherche. Et dans les dernières discussions budgétaires, vous le savez, on a trouvé 350 millions d'euros de plus par rapport au budget de l'année passée. Donc, il y a une vraie.
Alors, on va y revenir. Mais il y a aussi cette question. Vous dites, bon, est-ce qu'il y a certaines filières qui doivent aussi être fermées, d'autres ouvertes? Il y a aussi cette question quand même de l'accueil du modèle même de l'université. Vous le dites, tous ceux qui veulent aller à l'université pourront aller à l'université, mais il y a un très fort taux d'échec en licence. Est-ce que la sélection, alors c'est un très gros mot pour les universités, mais doit être revue?
Alors, il y a... sujet qui est un sujet évidemment compliqué en soi. Le modèle aujourd'hui en France, c'est dire vous avez le baccalauréat, quelque part vous avez le droit à une place, et c'est bien ça qui est, et c'est bien ça qu'on met en œuvre. La difficulté, c'est quoi? C'est que la massification, elle s'est faite essentiellement à la fois dans les universités, à la fois par une explosion démographique, c'est-à-dire beaucoup plus de jeunes qui arrivent en tranche d'âge, et puis en même temps aussi des taux de succès au baccalauréat qui ont pris 10 points en 15 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bac général, 97,7%.
Oui, tout le monde l'a, quoi, désormais. Hein.
Et donc, on a une vraie difficulté aujourd'hui, parce que nos universités, à la fois, ont développé des parcours d'excellence où il y a des très très bons élèves, et puis d'autres qui sont en très grande fragilité. Et donc, c'est compliqué, c'est tendu. La question derrière, moi, mon problème, c'est pas tellement la question théorique, c'est juste qu'aujourd'hui, on promet à des jeunes, aujourd'hui, un accès à l'université qu'on donne, mais qui ne mène parfois à rien parce qu'ils n'ont pas le bagage initial.
Et parce qu'ils vont se retrouver parfois en difficulté pour passer dans les années supérieures.
Voilà. Et donc c'est ça.
Yacine est avec nous au 32-16 qui nous appelle de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Bonjour Yacine.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes vous-même étudiant, c'est ça? Racontez-nous.
Tout à fait. Ben, écoutez, je suis étudiant en Master 2 en droit des affaires, donc à l'UPEC de Créteil.
Ok.
Donc quand j'entends, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur, quand je vous entends dire que entre guillemets, excusez-moi de grossir le trait, tout va bien, entre guillemets, ça me fait doucement rire. Vous savez, j'ai commencé il y a 4 ans et demi maintenant les études, donc en licence en première année. On était, je pense, je vais vous grossir la chose, peut-être 700 dans un amphithéâtre. J'étais dehors, je ne pouvais même pas rentrer à l'intérieur. Là, désormais, on est un peu moins, donc c'est beaucoup plus facile. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles travaillent les professeurs, on voit qu'ils n'ont même plus envie de nous faire apprendre. C'est de plus en plus compliqué. Quand je vois les jeunes qui postulent via Parcoursup, qui malheureusement se font rejeter, parce que je l'ai été malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Et je pense que c'est même plus une question, la question n'est plus seulement de savoir combien de places est-ce qu'on peut avoir justement dans les facs, etc. Ouais. Mais c'est même au niveau de la qualité de l'enseignement qui n'est plus du tout ce qu'elle était. Moi, je revois ce que j'ai pu voir au début en licence ou même en mes premières années, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que j'apprends maintenant. Vous voyez, l'UPEC de Créteil, si un jour vous avez l'occasion de vous y rendre, je vous y inviterai vraiment volontiers. C'est vraiment dans un état de délabrement, j'emploie le terme, vraiment incroyable.
Aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment, au-delà de la question effectivement des amphis surchargés, que la qualité de l'enseignement, parce que vous êtes déjà très avancé en Master 2, est-ce que la qualité de l'enseignement quand même vous satisfait?
Pas du tout, pas du tout. Je vous le dis très concrètement. Et en plus, j'ai cette chance-là d'être socialement parlant assez proche des formateurs avec qui je peux être amené à échanger régulièrement.
Vous impliquez quoi?
Bah, dit oui, je m'y implique parce que j'ai envie de réussir et j'ai envie d'apprendre. Et vous voyez ce que eux vous disent justement de leurs conditions de travail et puis même des relations qu'ils ont avec leurs collègues. Il y en a quelques-uns, je vous dis honnêtement, si c'était pas pour nous, ils ne seraient plus là depuis bien longtemps. Ils en souffrent vraiment.
Ils en souffrent eux aussi. Yacine, je voudrais que le ministre puisse vous répondre.
D'abord, merci de l'invitation, mais il se trouve que je vais régulièrement dans les universités. Donc j'étais à l'UPEC il y a quelques mois justement, donc j'ai eu le plaisir déjà de venir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai vu des enseignants qui étaient hyper motivés, qui étaient dédiés et qui consacraient leur.
Mais c'est ce que dit Yacine. Mais il dit qu'en même temps, ils ont des conditions terribles.
Et la qualité de l'enseignement, elle est forte. Après, c'est une université qui fait un gros effort, qui a un bassin de recrutement sur un endroit où il y a une très grande diversité sociale, qui justement fait l'effort d'amener tout le monde et d'emmener tout le monde vers la réussite. Et moi, je voudrais saluer leur travail. Après, encore une fois, je veux dire, qu'il y ait des difficultés à tel endroit, que votre auditeur soit pas content peut-être de...
Il y a un problème de gestion des universités.
Non, l'idée
d'avoir donné une sorte d'autonomie de gestion des universités, est-ce que puisque vous parlez de cette diversité aussi au sein des universités où certaines vont bien, d'autres mal, est-ce qu'il y a un problème aussi de responsabilité des universités elles-mêmes dans leur gestion du budget?
Alors, je pense que évidemment, on a 70 universités et aussi 200 écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc. Et ces établissements, ils ont une forme d'autonomie. Donc, effectivement, la manière dont ils sont gérés à la fin individuellement, ça a un impact sur le moyen, sur le long terme, puisqu'ils bénéficient d'une très très grande autonomie. Ça n'a, juste pour que vos auditeurs aient bien conscience, ça n'a rien à voir avec un lycée où les choses.
Vous sont leur donnez l'enveloppe et eux, ils s'en débrouillent.
Exactement. C'est eux qui décident de leur carte de formation, qui investissent, qui décident du nombre de formations, des recrutements. Donc, c'est une forme d'autonomie. Après, il y a le budget que nous, on donne évidemment le budget qu'ils vont aller chercher aussi à l'extérieur, à travers des appels d'offres, etc. On va discuter de tous ces sujets-là. Tous ces sujets-là, on va les ouvrir. Il va y avoir des assises. Il y a des assises qui, en ce moment, là, qui ont commencé. Des assises de financement d'enseignement supérieur et de financement des universités. Il faut qu'on travaille sur ces questions-là.
Est-ce que la question de l'autonomie pourrait même être mise en cause ?
L'autonomie, non, parce que l'autonomie, moi, je crois fondamentalement au fait que derrière le mot d'autonomie, il y a les libertés académiques. Il y a le fait que quelque part, c'est pas un gouvernement qui décide directement de ce que fait telle ou telle université. Et ça, c'est fondamental en termes de liberté publique. Par contre, après, la question d'effectivement de la manière de la gestion des universités, la gouvernance.
La gestion, j'allais dire, presque comptable et gouvernance. Une autre question juste avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, sur le repas à 1 €. Quand on voit que la situation est, en tout cas dans certaines universités, déjà très tendue, cette promesse du repas à 1 € pour tous les étudiants, ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui en ont moins besoin, est-ce que c'est pas une folie ?
Alors, c'est d'abord, ça va pas impacter directement l'université en tant que telle. C'est vraiment un sujet pour les restaurants universitaires, les Crous, enfin qui sont voilà. Donc bien sûr, on va les accompagner. Hein, il y a une mesure, c'est un coût budgétaire évidemment derrière, qui est un coût significatif. C'est à peu près 80 millions d'euros par an qu'on va mettre en plus pour contribuer pour rendre cette mesure possible. Ça va être une grosse charge de travail aussi en plus pour les restaurants universitaires, pour les personnels des Crous. On les accompagnera. Maintenant. Après, c'est aussi un budget de compromis, ce qu'on a fait. Comme vous le savez, c'était pas une mesure que moi je poussais beaucoup, mais c'était une mesure qui était très importante pour le Parti Socialiste. Donc c'est une discussion qu'on a eue, et effectivement, c'est une mesure qui va bénéficier globalement aux étudiants. Moi, la petite difficulté que j'avais, c'est que je me disais qu'en fait, elle va peut-être pas se focaliser exclusivement sur les étudiants qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'était peut-être une petite difficulté. Mais on va le faire. On va le faire dès le mois de mai. On va le faire efficacement. Le repas sera 1 € pour tout le monde, et on accompagnera les Crous pour que ça fonctionne.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Philippe Baptiste, donc ministre chargé de l'enseignement supérieur, et un merci tout particulier à Yacine pour son témoignage. Yacine, étudiant, qui est venu donc vous interpeller. Il est 7h52 pendant ce temps-là. La voix de gauche d'RMC, Cécile Duflot, est entrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Les délais de la protection judiciaire de la jeunesse sont trop longs. On le voit évidemment après le drame de Sanary-sur-Mer où une professeure d'art plastique a été poignardée par un élève qui était en attente de rendez-vous. Est-ce que le ministre a raison, le ministre de la Justice, de dire que c'est juste un problème aussi de délai trop long?
Bien sûr, et il faut absolument s'attaquer aux violences familiales. C'est souvent la source de beaucoup d'autres violences.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, juste avant d'accueillir la voix de gauche, avec une nouvelle carte postale de Jean-Jacques Goldman.
Eh oui, c'est pas une façon de parler, Apolline. Le chanteur retiré des projecteurs a littéralement envoyé une carte postale à un de ses fans, prof d'Épernay dans la Marne, qui s'appelle Mathieu et qui partage sa passion avec ses élèves. Une chanson en plein cours, une phrase citée, le prof en parle comme d'un artiste qui aide à comprendre le monde. Prof d'histoire géo, évidemment, il se sert de la chanson Né en 17 à Leidenstadt.
Si j'étais né en 17 à Leidenstadt,
Alors Thaïs, une de ses élèves, a écrit à l'artiste une lettre manuscrite pour lui parler de son prof et de l'anniversaire de Mathieu qui arrivait. Bingo, ça a touché Goldman qui a adressé une carte postale à l'enseignant. Bon anniversaire Mathieu, merci de changer tant de vie, merci aussi pour ton estime qui me touche beaucoup. Il a aussi pensé à saluer, je cite, l'adorable Thaïs, oui, adorable et audacieuse la lycéenne.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Cours reprennent progressivement ce matin à Sanary-sur-Mer. Mardi, un élève de 4e a agressé avec son couteau sa professeure. Le collégien bénéficiait avec sa sœur d'une mesure d'assistance éducative parce qu'il y avait des suspicions de violence intrafamiliale dans la famille. Cécile, vous vouliez revenir justement sur cet organisme qui est censé protéger les mineurs, mais il était toujours d'ailleurs en attente de rendez-vous.
Exactement, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une administration du ministère de la Justice dont la mission c'est à la fois de s'occuper des jeunes délinquants, mais aussi des jeunes qui sont en danger. Et on en a besoin parce que la violence des jeunes, je pense que c'est quelque chose qui nous choque le plus et encore plus, et je pense beaucoup à elle comme je pense nous tous, quand elle vise des enseignants, des gens qui ont dédié leur vie, toute leur carrière à s'occuper de ces adolescents. Mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde les statistiques, il y a moins de jeunes violents. Il y a moins de violence chez les jeunes, ça s'est beaucoup, beaucoup éteint, notamment par rapport au début du siècle, mais même par rapport à il y a quelques années. En revanche, ces actes de violence sont parfois encore plus violents. Et c'est pour ça que, en fait, moins il y en a et plus ils sont violents, plus ça nous choque légitimement.
Une violence, effectivement, donc comme débridée. Mais vous dénoncez des moyens en baisse.
Oui, et ça, c'est le problème. C'est que face à ça, les moyens ont régressé. Et les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment parce que, et c'est un rapport du ministère lui-même qui le dit, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est le parent pauvre ministère. Pour le seul milieu ouvert, c'est-à-dire exactement celui qui devait s'occuper du jeune dont on parle, l'inspection générale de la justice estime qu'il manque 322 postes, ce qui est considérable. Et quand on en annonce 76, on voit bien que c'est en deçà de ce qui est nécessaire. Et plus largement, et là où c'est plus grave, c'est alors que 600 postes ont été créés dans la PJJ depuis 2020, les effectifs des métiers du social, de l'insertion et de l'éducatif, ceux qui sont auprès des jeunes, ont eux baissé de 53 équivalents temps plein. Donc en fait, on englue les personnels dans l'administratif au détriment des jeunes. Et ça, les syndicats le disent, et même l'inspection de l'administration le dit.
Et pourtant, d'après vous, travailler sur la prévention, sur l'accompagnement de ces jeunes vulnérables, ce serait précisément le moyen d'enrayer la violence.
Oui, et je pense qu'il faut le dire là maintenant. Il faut dire cette phrase, quand un enfant frappe les autres, demande-toi d'abord si c'est pas lui qui est frappé. Cette phrase, moi, elle m'a beaucoup marquée, et c'est un principe de base en matière de prévention de la violence dans l'enfance, et ça a été scientifiquement étudié. Donc il y a des centaines d'études sur le sujet, il y a même des études qui compilent ces études, qui montrent une chose. Quand on est victime de violence dans l'enfance, on est davantage conduit à être violent quand on est un garçon et à être victime de violence quand on est une fille. Mais c'est pas non plus automatique parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui interviennent. Il y a l'entourage, l'éducation, l'accompagnement psychologique. Donc on peut agir sur ce déterminant très difficile qu'est la violence
avant
dans l'enfance.
Qu'il ne devienne violent, justement. Si on veut faire baisser le niveau de violence dans la société, pour vous, il faut s'occuper de ses enfants.
Oui, bien sûr. Il faut s'occuper des enfants pour permettre de lutter contre la violence dans la société. C'est d'ailleurs ce qui avait prévalu lors de la rédaction d'un document essentiel qu'on appelle l'ordonnance de 45, qui est signé par le général de Gaulle en personne, qui pose pour principe que l'éducation doit dominer dans la justice des mineurs, dans la réponse, mais aussi dans leur protection. Et ça, c'est une approche humaniste, évidemment, mais c'est surtout une approche très pragmatique. Parce que avant la guerre, il y avait ce qu'on appelait les colonies pénitentiaires, les bagnes d'enfants, des lieux extrêmement violents, cruels même parfois. L'idée, c'était de mettre ces enfants et ces adolescents à l'écart de la société, mais en fait, on les rendait encore plus violent. Donc on est dans une situation où on sait qu'en fait, plus on est violent avec les enfants, plus ils deviennent violents. Et on est dans un pays où tous les 5 jours, il y a un enfant qui meurt sous les coups de ses parents. Donc donner des moyens à la prévention et à la lutte contre la violence dont sont victimes les enfants, c'est une bonne chose pour les enfants, c'est une bonne chose pour la société.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche d'RMC. 7h59, on se retrouve dans un instant pour la météo, le journal et l'économie. C'est Emmanuel Le Chypre qui nous rejoint. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.